Alors, nous avions donc la dernière fois, nous continuons notre voyage dans le monde fantastique de l'art funéraire sogdien de Chine. La dernière fois, nous avions donc vu, nous avons terminé de voir les reliefs du lit funéraire. Alors, lequel on avait vu ? C'était Miho. C'était le lit Miho, c'est-à-dire le premier qu'on a connu, enfin, l'un des premiers qu'on a connu, et le plus authentiquement sogdien de tous, c'est peut-être le plus ancien de toute la série. Nous allons maintenant consacrer un temps assez long, peut-être même toute la séance, au plus remarquable, le plus riche de contenu par son iconographie de ces lits funéraires. En l'occurrence, ça n'est pas un lit funéraire, c'est un véritable sarcophage, comme vous pouvez le constater, exposé au musée archéologique de Xi'an. Il n'a pas tout à fait les qualités esthétiques de certains de ceux qu'on avait vus parce qu'il a perdu sa polychromie. La pierre n'est pas très flatteuse, un peu noirâtre, un peu gluante, donc il a perdu ses peintures, mais par son iconographie, c'est le plus extraordinaire de tous, et il est encore maintenant sujet à des problèmes d'interprétation dans des discussions auxquelles je participe. Alors, ce sarcophage a donc été trouvé en fouille régulière en 2004, et j'avais la chance de me trouver à ce moment-là à Xi'an, et je l'ai pratiquement vu sortir de terre. L'épitaphe est conservée. Elle est bilingue, ce qui est très rare. Il y en a une seule autre que j'ai signalée la dernière fois. L'épitaphe sogdienne est ici. Le sogdien peut s'écrire de droite à gauche, mais il peut aussi s'écrire de haut en bas. C'est le cas ici. Vous voyez, elle est très longue. Et il y a aussi une version chinoise ici. Alors, les deux versions ne se correspondent pas véritablement. Ce sont des élaborations à partir d'un matériau biographique fourni par la famille, peut-être même le défunt avant sa mort. La version sogdienne est un peu plus terre-à-terre. La version chinoise, comme toujours, est beaucoup plus conventionnel, mais contient des détails qu'il n'y a pas dans la version sogdienne. Alors, sans plus attendre, j'en viens au texte donc sogdien, et je signale à l'occasion quand il y a des éléments qu'on connaît par la version chinoise. Donc, c'était dans la période d'Asiang des grands Zhou. La dynastie des Zhou, la dernière grande dynastie du Nord avant la réunification de la Chine, la deuxième année, le premier mois de l'année du rat, donc on est dans le calendrier chinois, le 23e jour, donc c'est le 16 juin 579. Donc, il y avait un homme d'une famille de Kesh, Kesh en sogdien, Shi en chinois, Shari, donc Charisabs au sud de Samarcande, habitant dans la ville de Kachan, Wuwei. On a déjà vu cette ville à propos des anciennes lettres. C'est le grand centre sogdien dans le Kansu. Il obtint de l'empereur le titre de Sapao de Kachan. Et il était un notable dans le Sogdikestan. On va voir, ça pose un problème. Il s'appelait Wirkak, fils de Wanuk, fils du Sapao Rashtvande. Mais la version chinoise précise Sapao dans son propre pays. Et on tombe dans le problème qu'on avait posé. Il y a une équivoque entre Sapao, titre administratif chinois, et le sens originel sogdien Sapao, qui veut dire chef de caravane. Sa femme, née à Senpen, aujourd'hui Shipping, on va voir, c'est très intéressant comme localisation, s'appelait Wiyusi. Wirkak épousa sa femme à Senpen, alors d'après la version chinoise, c'est en 519, il avait donc 30 ans. Il mourut ici à Hundan, donc Xi'an. Hundan, c'est le nom sogdien de Xi'an. Et on sait par la version chinoise, il avait 86 ans. Il est mort en 579. Sa femme est morte un mois après lui. D'où le texte qui élabore à la fin, de manière d'ailleurs assez émouvante, je trouve, assez digne, Il n'y a pas d'êtres vivants qui naissent et ne doivent mourir. Il est difficile de dépasser le terme de sa vie. Ça, on va bien les croire. Cependant, il est encore plus difficile dans le monde des hommes, car Marie et sa femme se voient l'un l'autre durant toutes ces années, tous ces mois, tous ces jours, et qu'ils vivent ensemble tout ce temps aussi au paradis. Cette maison des dieux faite en pierre, donc c'est la désignation du sarcophage, a été construite par Vreshaman Vande, Jemad Vande et Frut Vande, les trois frères, pour leur père et mère à l'endroit approprié. Ouais, typique de l'onomastique sogdienne, c'est souvent ce qui permet de repérer des fratries. On l'avait vu dans les anciennes lettres, c'est que souvent les fratries ont un élément commun dans le nom. Enfin voilà, Vande, serviteur d'eux. Alors, cette épitaphe mérite évidemment certains commentaires. La date ne réfère pas, comme il y a une seule date et qu'ils sont morts, pas morts le même jour, c'est pas la date du décès, c'est la date de l'enterrement. Un homme d'une famille de Kesh. Alors, on a vu, Kesh, c'est l'une des six grandes origines des Sogdiens de Chine. En Sogdien, un habitant de Kesh s'appelle She, et d'ailleurs, le personnage dans son épitaphe sogdienne s'appelle She Jun. Jun, on ne sait pas très bien ce que ça vient faire ici, puisque ça n'a rien à voir avec son nom sogdien, qui est Wilkak, qui veut dire le loup. Ce qui est un bizarre pour un zoroastrien, puisque c'est un animal démoniaque, mais il y a des cas, on connaît d'autres cas, où un zoroastrien peut s'appeler Monsieur Loup. Sa femme, c'est plus zoroastrien, parce que oui aussi, ça veut dire aube. C'est la divinité de l'aurore. Bien. Il était d'une famille de Kesh. Il se trouve que on connaît des Sogdiens, on se connaît deux lignées de Sogdiens à Kesh, à Guyuan, un site qui est donc entre la capitale Xian et le Kansu. Or, nous voyons que la trajectoire personnelle de Wirkak le fait naître donc originairement à Kesh ici. Il démarre sa carrière ensuite il est Sapao à Wuwei, il épouse une femme de Sipin, qui est là, en fait, à l'est du lac, ici, du Coconor, près de Wuwei. Et puis, il termine sa vie à Xi'an. Alors, à Guyuan, un peu au milieu de tout ça, on a des tombeaux qui n'ont pas de caractéristiques iconographiques sogdiens particuliers, mais des épitaphes en chinois. Et on voit qu'il s'agit de deux familles. Che, donc originaire de Kesh, et qu'on suit sur six générations. On voit que le premier ancêtre répertorié remonte au 5e siècle, et le dernier défunt meurt en 666, donc déjà dans la période Tang. Alors, il y a des choses intéressantes quand on compare les épitaphes de ces gens-là avec celles de Wirkak. Pour ces deux familles, qui étaient peut-être en fait une seule, bon, les premiers ancêtres étaient Sapao dans leur pays, ce qu'a été le grand-père de Wirkak. Et puis ensuite, on repère dans la famille un gouverneur de Shipping, donc ville mentionnée là où habitait la femme de Wirkak. On repère aussi des militaires. Et puis pour finir, il y en a un qui est interprète à la cour des Tang, et un autre qui est directeur des haras impériaux. Alors ça, c'est une activité assez connue chez les Sogdiens, puisque les Sogdiens étaient beaucoup dans l'importation des chevaux. On n'a pas la iconographie, donc dans l'iconographie de ces tombeaux des gens de Kesh de Guyuan, il n'y a pas d'éléments sogdiens, mais il y a des éléments intéressants dans le petit matériel. Alors évidemment, le petit matériel qui a été trouvé, c'est ce qui a échappé au pillage. Il y avait des choses beaucoup plus riches que ça. Il y avait certainement des vases. Bon. Ce qui a échappé au pillage, c'est ça. Et alors, dedans, on voit quand même très bien que ça manifeste des contacts avec l'Occident. Parce que vous avez ici des monnaies sassanides, ici. Vous avez une monnaie byzantine et des imitations de monnaie byzantine. Voilà. Donc ça, c'est une monnaie sassanide authentique. La monnaie byzantine authentique, je crois que c'est celle-là. Il y a des imitations de monnaie byzantine. Un sceau sassanide d'importation, hein, avec une inscription tout à fait lisible en Pélévi, l'image d'un lion. Des pierres semi-précieuses qui viennent aussi d'ailleurs. Donc on voit très bien que il y a ici. Et puis alors le masque funéraire, ça c'est une tradition chinoise. Enfin chinoise. C'est originaire en fait de la steppe, mais ça existait aussi en Chine. Donc voilà, ces épaves montrent quand même que cette famille avait des contacts avec l'Ouest. On n'arrive pas véritablement à raccrocher la généalogie de ces gens-là avec la généalogie de Wirkak. On ne peut pas identifier des personnages d'une généalogie à l'autre. Mais les noms, il y a des noms qui se retrouvent dans les deux généalogies. Et Yutaka Yoshida, qui a donc publié l'épitaphe de Wirkak, suppose qu'il y avait un lien de parenté, que tout ça, c'était quand même... C'était le même clan. C'est pas la première fois qu'on est amené à supposer, d'après certains indices, que ces familles d'immigrés sogdiens en Chine, elles n'étaient pas si diverses que ça. Il y avait dans le système des 9 lieux d'origine qui ont donné donc leur nom de famille chinois. Il y avait peut-être seulement certaines familles, ou peut-être même une seule, spécialisées dans l'expatriation commerciale. On voit ça avec... On retrouve des noms dans les inscriptions du Haut Indus. On retrouve des noms qu'on avait dans les anciennes lettres de Dunhuang. Un nom clanique, Kanak. Donc, on voit que c'est peut-être un milieu plus serré que ce qu'on pourrait... penser. Alors, un problème donc, que j'ai signalé, Wirkak, qui est donc lui dans la hiérarchie administrative chinoise, Sapao de Kachan, clairement ça ne veut plus dire chef de caravane, bien qu'on va le voir par les reliefs, il a aussi exercé cette fonction, mais il est un notable dans le Soukdikestan. Alors, ça veut dire quoi? Alors, il y a deux hypothèses. Yoshida, qui a publié l'inscription, pense que ça veut dire tout simplement la Sogdienne. Ce qui pose quand même un problème. Comment est-ce qu'un personnage pouvait être à la fois pouvait à la fois faire sa carrière en Chine et rester un notable dans son pays d'origine? On voit que ça a davantage l'air d'être le cas de son grand-père, en tout cas. Alors, Pavel Lourier a fait une autre hypothèse qui me paraît préférable. C'est que Soukdikestan, ça veut dire la communauté sogdienne. Mais ce n'est pas forcément les sogdiens en sogdiane. Ça peut être tout simplement la communauté sogdienne à Wuwei. Voilà. Parce que le suffixe estan en persan, on est habitué à supposer que ça veut dire pays. Hein, Tadjikistan, Ouzbékistan, etc. Mais ça peut aussi vouloir dire communauté, groupe humain. Et donc, ça pourrait plutôt être ça, à mon avis. Alors, l'épouse, qui s'appelle donc Wiyusi, est née à Xiping. Alors là aussi, c'est assez intéressant. Donc, par ici. Alors d'abord, c'est vraiment la ville qui est, vous voyez, juste au sud de la grande route qui relie la Chine du Nord au Kansu, et c'est la montée sur le plateau tibétain. Les personnages enterrés à Guiyuan, l'un d'eux avait été gouverneur de Xiping. Mais il y a autre chose qui attire l'attention. Xiping, c'est un grand centre d'approvisionnement en vésicules de musc. Marco Polo en parle assez en détail, parce qu'il se trouve que pendant leur voyage, ils se sont trouvés, c'est plutôt le voyage de retour à mon avis, ils se sont trouvés... Non, c'est son père et son oncle, lors de leur voyage, qui se sont retrouvés bloqués un an au Kansu, à Jiangye, pour leurs affaires, dit Marco. Il ne précise pas davantage. Et il se trouve que Marco a ramené à Venise une peau de chevreau à musc. On le sait par les testaments de la famille. C'est resté dans la famille pendant longtemps, comme une relique. Donc, on soupçonnerait assez facilement qu'ils ont été un moment... Bon, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Marco est extrêmement chiche en détail sur les affaires conclues par sa famille, parce que c'est pas ça qui lui paraît intéresser le lecteur. Mais on pourrait bien penser qu'ils ont été un moment dans le commerce du musc. Je rappelle donc que l'un des personnages des anciennes lettres, l'auteur de l'ancienne lettre numéro 2, Nanaï Vande, si je me rappelle, oui, Nanaï Vande, qui est probablement à Langchou, mentionne l'envoi à Samarcande d'un capital en vésicule de musc qu'il a accumulé pour assurer l'avenir de son fils. Et donc là aussi, donc c'est pas indifférent de voir que l'épouse de Wirkak a des attaches avec ce grand centre de fourniture en musc. Le musc, c'est typiquement le genre de produit que les Sogdiens pouvaient aimer commercialiser parce que ça vaut son poids d'or et même plus. Donc c'est typiquement objet matériel de prestige, peu pondéreux et très cher. Les capitaines de bateaux n'aimaient pas du tout transporter des chargements de musc parce que l'odeur était absolument insupportable, mais bon, sur un chameau, ça devait passer davantage. Alors, j'en viens maintenant à l'iconographie. Il y a d'une part des compositions habituelles sur les lits funéraires sogdiens. Alors, les prêtres que vous avez déjà vus et que donc avec d'autres tombeaux et que donc je ne montre pas à nouveau ici, les prêtres oiseaux symboles du dieu Srosh, la cérémonie funéraire, la cérémonie du quatrième jour après la mort, au moment où l'âme est censée franchir le pont, et là on va vraiment les voir franchir le pont. C'est montré, mais alors par ailleurs, donc il y a un ensemble très très riche de panneaux. Je montre plutôt des dessins que des photos parce que la pierre est difficile à photographier. On peut voir pour des petits détails, mais pour l'ensemble, il vaut mieux voir les dessins. Les panneaux se répartissent en deux catégories. Il y a des scènes religieuses à contenu principalement eschatologique, en rapport avec le voyage dans l'au-delà. Et ça, c'est unique. C'est le seul, avec un autre tombeau qu'on va voir après, c'est le seul cas où on a ça. Et par ailleurs, il y a des scènes biographiques. En l'occurrence, 6 scènes, ici numérotées de A à F, qui se lisent de droite à gauche. C'est normal, le sogdien s'écrit de droite à gauche. Donc l'art sogdien souvent se lit de droite à gauche. Pas toujours, mais souvent. Les peintures de Penji Kent, par exemple. Elles occupent deux côtés. Un côté ici, un côté là. Bon, on voit pas, c'est pas très net sur cette image, mais ce sera plus sur les images détaillées. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ces scènes, c'est qu'elles forment vraiment clairement une séquence chronologique, ce qui n'était, semble-t-il, pas le cas ailleurs. On a aussi l'impression que c'est moins conventionnel que d'autres. Il y a vraiment... On soupçonne un rapport assez étroit avec la vie réelle du personnage. Alors, que voit-on ? Première scène à droite. On voit... deux personnages. Alors, celui-là est clairement un sapao, parce qu'il a le bonnet qu'on a déjà eu l'occasion de voir, et un jeune homme, vraisemblablement son fils. Alors, je dis tout de suite, à mon avis, c'est Wirkak jeune, avec son père ou son grand-père. Et ils viennent présenter leurs compliments à un couple royal qui vient d'avoir un bébé. c'est la visite de courtoisie. Ça mène des cadeaux. Ça se passe, ce couple royal est dans un milieu, vit dans un cadre, disons, sédentaire d'Asie centrale, sans qu'on puisse être précis. C'est pas, ils ne sont pas sous la yourte, ils sont sous des pavillons, comme les Sogdiens en avaient. Ça peut être un peu n'importe où, entre Tourfan, la Sogdie, peut-être la Bactriane. Enfin, moi, je les verrais plutôt au Xinjiang, je les verrais plutôt du côté de Tourfan, en fait. Le personnage ici porte une couronne stylisée, mais d'inspiration sassanide. Alors là, c'est très important, parce que tous les personnages royaux qu'on va voir sur ces scènes ont ce type de couronne. Alors voilà, ça, c'est le détail... Ah oui, non, ça, c'est en fait un détail d'une scène ultérieure. J'aurais pas dû le mettre ici. Bon. On a ici un cheval qui attend avec un parasol dehors. Donc, c'est un cheval de Sapao. Parce que les Sapao, on a déjà vu, ils héritent d'une symbolique royale. Comme ce sont les chefs communautaires, ils récupèrent des attributs qui, chez eux, seraient les attributs des rois. Et visiblement, c'est le cheval du personnage le plus âgé, qui est ici. On imagine que le gamin montait en croupe. Bien. Visite de courtoisie à un couple. Alors, ce couple royal ressemble beaucoup à... On va en voir apparaître un autre plus loin. Je vous dis tout de suite, à mon avis, le bébé de la scène 1 est devenu le roi de la scène 4. Voilà, parce qu'ils n'ont pas la même couronne. Et dans le détail, ils n'ont pas la même couronne, sa femme non plus. Donc, ce n'est pas les mêmes, mais ils sont dans le même cadre. Et il n'y a plus de bébé. À mon avis, le bébé, c'est lui. Bon. Et on a là un plat heftalite du Tokarestan, où on voit le couple, ouais, l'homme, la femme en long manteau enveloppant, le couple... avec le caftan d'Asie centrale qui banquette ensemble. Ouais, exact. C'est très proche de cette scène-là, avec la coupe levée, des musiciens. C'est vraiment la façon dont les heftalites se faisaient représenter. Et ce qui frappait beaucoup les Chinois, c'est que quand les souverains heftalites recevaient, ils recevaient avec leurs femmes. Ça n'était pas typique d'autres peuples avec qui les Chinois étaient en rapport, mais dans le cas des Heftalites, ils précisaient bien que la femme avait un statut social élevé. Et ça correspondrait bien à ce qu'on voit ici. Voilà la première scène. Changement de décor avec la deuxième scène. On a un autre personnage qui porte lui aussi une couronne de type sassanide. C'est pas la même. Et lui, il est à la chasse dans la steppe. On peut supposer que c'est plutôt un chef nomade. Alors, le décor, le décor montre des manguiers. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas réaliste. Dans l'art de ces tombeaux sogdiens, ça s'est inspiré de l'art bouddhique. Manguier, ça veut dire exotique. C'est en fait un arbre indien, mais c'est souvent utilisé comme motif pour dire « ici, on n'est pas en Chine, on est ailleurs ». Alors voilà, et donc ils chassent divers animaux, qui peuvent être des animaux de la steppe, des cerfs, etc. Et dessous, une scène très intéressante, on a une caravane. Peut-être ce personnage porte-t-il le bonnet de Sapao. Vous voyez les traits physiques caricaturaux sogdiens. Donc les sogdiens, sur leur propre tombeau, laissent les artistes chinois les montrer d'une façon un peu grotesque. C'est très vivant, ouais, le chameau qui blatère, là, qui est chargé. On voit que cette caravane... Il y a deux éléments très intéressants dans cette caravane. Il y a un garde armé. Voilà, il a un carquois. Et on sait que les caravanes, suffisamment dotées, se payaient une escorte. Et alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ici, on le voit ici. Vous voyez, le bonnet, là, c'est exactement le bonnet kirghiz actuel. Ouais, bonnet de voyage. on ne peut pas dire autre chose qu'il regarde avec une longue vue. C'est absolument impossible d'interpréter le motif autrement. Alors, gros problème. Donc, Wertmann, dans son gros livre, dit, ben voilà, il a un télescope, il a une longue vue, c'est pour observer l'horizon, alors soit pour surveiller la route, enfin, probablement pour voir s'il n'y a pas des voleurs, des brigands qui apparaissent à l'horizon. On a déjà vu que la présence des brigands sur ces routes d'Asie centrale est omniprésente. Problème, on est 1000 ans avant Copernic. Les longues vues à lentilles, ça n'existe pas. Alors, il y a des lentilles expérimentales. On sait qu'il y avait des lentilles expérimentales donc dans l'Antiquité gréco-romaine, mais c'était vraiment expérimental. Il y en avait après dans la science arabe. On dit que, mais j'ai jamais vraiment trouvé de publication qui confirme ça, que dans la fouille de l'observatoire de Maragha en Iran, donc sous la dynastie mongole, on aurait retrouvé des lamelles de verre superposées qui peut-être avaient un effet agrandissant. Mais enfin, ça ne nous donne pas l'invention de la longue vue au VIe siècle. Mais il y a un détail, il y a une information intéressante. Parmi les nombreuses inventions du grand savant Al-Biruni, fin Xe, début XIe siècle, il y a un tube télescopique sans lentille. Parce que même s'il n'y a pas de lentille dans le tube, ça permet quand même de concentrer la vision en éliminant les lumières latérales. On voit mieux l'horizon dans un cylindre en carton, même sans lentilles, qu'on le voit avec une vue panoramique. À mon avis, c'est ça. C'est un tube de vision. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Biruni, cinq siècles après, il n'a rien inventé. Les marchands sogdiens avaient déjà ça. Ça, c'est une pièce aversée au dossier, à mon avis, au dossier de l'héritage centra-asiatique de Biruni, qui était né au Khorezme, qui avait grandi au Khorezme, qui était resté très patriote au Khorasmien, et dont on sait que une partie de la géométrie, de l'astronomie, de la géométrie de Biruni peut venir de la pratique de l'irrigation très sophistiquée du Khorezm. Il y avait probablement au Khorezm pré-islamique une science géométrique développée, parce qu'il suffit de voir les plans des grands monuments que j'ai examinés ici il y a 2 ans. Ce sont des épures d'architectes et on n'a pas ça ailleurs en Asie centrale. Eh bien, dans les techniques des voyageurs du Khorezm, il y avait probablement cela. Et ça, c'est, je peux vous dire tout de suite, c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a 2 jours. Voilà, ça sert de préparer les cours. Alors, qui peut être ce souverain nomade qui a quand même une couronne sassanide? On est donc dans un milieu heftalite, péri-heftalite. Alors, il se trouve que les heftalites avaient des alliés dans les heftalites qui, à cette époque, donc, dominent la Bactriane, la Sogdiane et une partie de l'Inde, sont en relation d'alliance avec des confédérations nomades qui sont dans la steppe. La principale, c'est les Juan-Juan. Alors, on écrit Rouran maintenant en pinyin, mais en fait, c'est Juan-Juan. Ils ont été remplacés par les Turcs en 560 et on les connaît en Occident parce qu'ils sont arrivés sous le nom de Avars en Hongrie. C'est eux les ancêtres des Avars. Alors il y a une autre confédération qui s'appelle les Gaokyu, qui domine du côté de l'oasis de Turfan. Alors, voilà, c'est là que je situerai le personnage. Je dirais mouvance nomade en rapport avec l'Empire heftalite. Nous continuons et nous arrivons, alors voilà, à nouveau, quatrième scène. Nous avons ici À nouveau, la visite chez un souverain, mais lui, c'est un nomade. C'est peut-être le nomade qu'on a vu chasser dans la scène précédente, parce que là, les couronnes sont à peu près compatibles. Bah, il est sous la yourte, vous voyez ici. Et c'est un bon chasseur, il a ses faucons avec lui. À nouveau, on a... Alors là, on a trois personnages, dont un Sapao âgé. Et bon, moi, je pense que c'est Wirkak et son père ou son grand-père qui est en train de vieillir. Et c'est une façon de montrer, comme le fait l'épitaphe, que Wirkak est l'héritier d'une pratique familiale, du commerce. En dessous, la caravane au repos. Et dans la scène suivante, nous retrouvons à nouveau un milieu sédentaire avec ce pavillon, un couple qui, à mon avis, est le couple de la première scène, enfin, est le bébé de la première scène qui est maintenant devenu roi. Donc ça, c'est une façon de nous dire une génération a passé, mais ils étaient toujours sur les routes. Ce qu'on nous dit là, c'est que Wirkak, jusque vers la trentaine, était à mener la vie d'un chef caravanier. Ici, ce n'est pas très clair où sont les visiteurs sogdiens. Vous avez un danseur, vous avez des musiciens. Peut-être il est là, en train de lever une coupe. Alors, la biographie continue, mais ensuite, on change de répertoire. On n'est plus dans le cadre commercial, on est dans un cadre qui devient officiel chinois. Vous avez ici un Sapao qui est relativement jeune encore. Bon, on voit bien, alors, c'est un grand personnage, il a son parasol et on lui fait des gestes de respect. C'est certainement Wirkak. C'est Wirkak qui, après une carrière commerciale, entame une carrière de haut administrateur dans le cadre chinois. Et en dessous, c'est sa femme, qui a typiquement l'espèce de capuche de voyageuse chinoise sur la tête. Si vous allez au musée Guimet, vous voyez les statuettes exotiques qui représentent des Sogdiens. Typiquement, les femmes, sur leur chameau, c'est ça qu'elles portent. C'est contre la poussière. Pourquoi ? Parce que ces deux pans qui tombent, on peut les nouer devant la bouche. Voilà. Très probablement, je dirais, on est ici à un moment où Wirkak s'est sédentarisé et peut-être va rejoindre avec sa femme son affectation de Sapao. Alors, ça peut être en 535, quand il est devenu Sapao de Wuwei. Ça peut être 30 ans plus tard, 565, parce que là, il est devenu Sapao de Langzhou, en se rapprochant de la capitale. Et c'est finalement à la capitale qu'il est mort. Et ici, on le retrouve, notre Wirkak, avec son bonnet. Il est avec 1, 2, 3... Voilà, ils sont 5 au total. Ils sont 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et dessous, il y a 5 dames. Évidemment, les épouses des premiers. C'est une garden party mondaine qui, alors, il y a des indices. Hein, c'est sous des treilles de vigne. Ça veut dire, c'est le Nowruz sogdien. C'est le nouvel an. Parce qu'à ce moment-là, le Nowruz sogdien tombait en été, quand les grains commencent à mûrir. Tout simplement, Wirkak est en train de recevoir des collègues, peut-être d'autres Sapao, mais peut-être pas vraiment, parce qu'il semble c'est lui qui, semble-t-il, a le bonnet bilobé le plus caractéristique. Sa femme reçoit les épouses des collègues. Elle est habillée à la chinoise. Et ces dames, quand elles ne sont pas en voyage, sont habillées à la chinoise pour les raisons que j'avais indiquées au cours précédent, une dame sogdienne d'un milieu distingué ne va quand même pas s'habiller comme les sogdiennes qu'on voit, les entraîneuses sogdiennes qu'on voyait dans les bars de la capitale. Donc, pour se différencier, elle va s'habiller à la chinoise. Voilà, l'orgue, l'orgue de bouche, instrument chinois, ici, l'orchestre est un orchestre. Alors, en bas, orchestre chinois, orchestre de femmes, ce qui ne les empêche pas de jouer des instruments parfois d'Asie centrale, la harpe triangulaire et le luth. En haut, orchestre sogdien, orchestre d'hommes. Voilà. On avait déjà vu dans d'autres exemples cette répartition. Le type physique sogdien, on ne va pas quand même caricaturer Vuirkak, mais alors le serviteur, lui, oui. C'est vraiment le visage sogdien bien caractéristique. Cette célébration du Nowruz sous l'égide du Sapao, on reconnaît le thème qu'on voit démultiplié sur les reliefs d'Anyang, qu'on a vu il y a deux séances, ce lit funéraire le plus ancien, celui qu'on a trouvé en premier en 1911, dont un panneau est à Guimet. C'est le couronnement d'une carrière de Sapao, mais vu du point de vue sogdien, c'est-à-dire... L'une des fonctions du Sapao, c'est de recevoir ses compatriotes au moment du Nowruz. C'est tout simplement la fonction du roi sassanide, qui est reprise à l'échelle locale par ses chefs de communauté sogdienne. Alors, vous voyez tout de suite, les allusions au commerce sont quand même pas absentes, puisque on a quand même... On a quand même des caravanes battées, etc. Bon, et les dangers de la route et tout ça. Mais on est quand même très loin du monde besogneux qu'on voyait dans les anciennes lettres. On voit ici, le message qui passe, c'est que quand on a vécu assez longtemps, quand un sogdien de Chine a vécu assez longtemps, il a commencé sa carrière sur les routes, mais au bout d'un certain temps, il se sédentarise et il exerce des fonctions administratives éminentes. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on le voit, il n'y a pas de scène, il n'y a aucune scène à la chinoise, comme on voit sur certains autres tombeaux où on nous met bien en parallèle la scène de délassement à la sogdienne et la scène à la chinoise, et également les rapports avec des officiels chinois. Ici, c'est vraiment les sogdiens parlent aux sogdiens. Alors, j'ai dit tout à l'heure... Alors, un détail encore à commenter, c'est donc voilà, ces personnages qui, je dirais, faute de mieux, c'est la mouvance heftalite. Oh, ça peut être effectivement la dynastie qui, à l'époque, règne non encore chinoise, qui, à l'époque, règne à Turfan. Ici, je verrais bien effectivement les Juan ou les Gaoqiu, donc contemporains des Heftalites. On est dans la mouvance Heftalite. Il n'y a aucun Turc. Il n'y a pas un personnage sur les reliefs de Wirkak qui a la caractéristique qui permet immanquablement de reconnaître un Turc, c'est-à-dire la longue natte dans le cou. Or, nous avons vu, avec les tombeaux précédents, le tombeau polychrome d'Ansia, le tombeau Miho, que ce sont les Turcs qui dominent. Or, Wirkak est mort en 579, la même année qu'Ansia. Ansia, il montre que des Turcs. Il montre probablement des Heftalites, mais en position subordonnée. Et Wirkak, il montre que des Heftalites. Pourquoi ? À mon avis, l'explication est simple. Wirkak est né 30 ans avant Ansia. C'est-à-dire que la carrière active, comme sur les routes, de Wirkak, en fait, elle s'achève probablement dès 535. Voilà. Il a vécu. Et puis après, il vit très vieux, mais sédentarisé en Chine. Donc, ses souvenirs de chef caravanier sont associés à ce qui a précédé les Turcs, c'est-à-dire l'Empire heftalite, dont on sait que. Enfin, une des caractéristiques de la symbolique politique heftalite, c'est qu'elle emprunte beaucoup aux Sassanides, notamment les couronnes, ce que les Turcs ne vont pas faire. En revanche, Ansia, qui est né en 517, lui, il avait 30 ans au moment où les Turcs sont arrivés au pouvoir. Donc, les gens qu'il a, avec qui, disons, les interlocuteurs commerciaux qu'il a eus durant sa vie, c'était déjà les Turcs. Donc là, je pense qu'il s'agit d'une différence générationnelle. Bien. J'ai exposé tout ça dans un article avec Pénélope Ribou il y a une dizaine d'années. On peut peut-être aller plus loin. Finalement, quelle était la fonction de Wirkat dans cette première partie de sa vie où il est sur les routes et on le voit assez souvent, peut-être avec son père ou son grand-père, en situation d'interaction sociale avec divers chefs sur la route, sédentaires, nomades. Je pense qu'en fait, il a été Urtak. Alors, j'en avais parlé il y a deux cours. Urtak, c'est dans l'Empire turc, mais on pense que c'est en fait une fonction héritée de leurs prédécesseurs, c'est le chargé d'affaires commerciales du Kagan. C'est le personnage à qui l'empereur nomade confie ses intérêts commerciaux. En gros, le chef nomade, il reçoit des cadeaux en soie par la cour impériale et il va charger, c'est évidemment un Sogdien, qu'on va charger ensuite d'aller négocier tout ça pour le transformer dans ce qui intéresse bien davantage ces chefs turcs ou heftalites, c'est-à-dire de l'argenterie, des objets précieux, etc. Et je pense que cette fonction à la fois commerciale et de cour qu'on voit s'afficher ici correspondrait bien à la fonction d'Urtak. Alors j'avais dit donc la fois précédente que l'exemple typique de l'Urtak, ça on peut vraiment en être quasiment certain, c'est ce fameux maniar que les Turcs ont utilisé comme un Sogdien que les Turcs ont utilisé comme ambassadeur commercial, aussi bien auprès des Sassanides qu'auprès des Byzantins. C'était le personnage chargé tout simplement d'écouler la soie qu'avait reçue l'Empire turc de la part des Chinois. Je pense que c'est déjà la même chose ici, dans un contexte politiquement qui a précédé les Turcs. Alors, j'avais mentionné donc qu'il y avait des scènes religieuses tout à fait originales. Il y en a en fait, trois. Alors, la toute première scène, avant la biographie, la scène biographique, c'est celle-ci. Que voit-on ? Un personnage dans un halo. Alors, ce personnage a une apparence assez bouddhique. En gros, il est imité, il est assez proche de l'iconographie de Maitreya, le Bouddha du futur, mais ce n'est pas Maitreya. Il a une petite moustache royale là, à la Sassanide, une barbe. Maitreya n'est jamais représenté comme ça. Il fait un geste de la main qui n'est pas un mudra bouddhique, qui est quelque chose d'autre. On nous laisse entendre que, il ressemble à Maitreya, mais ce n'est pas Maitreya. Il prêche à des groupes différenciés, des groupes humains différenciés. Ici, vous avez sans doute des Sogdiens. Ici, vous avez le couple, Wirkak et sa femme. Là, vous avez probablement des Indiens, les trois à gauche. Et en bas, ces trois personnages, ce sont des courtisans chinois. Leur coiffe extrêmement exubérante, multilobée, très haute, correspond tout à fait à ce qu'on a sur des figurations de scènes de cours chinoises, justement dans les cours des Wei, des Zhou, etc., contemporains. On est parti sur une fausse piste au début avec Étienne de la Vessière, parce qu'on a pris ces personnages pour des dignitaires manichéens, qui avaient des toques comme ça. Mais Goulachi et Bédoun, dans un article, ont montré que structurellement, ces coiffures n'ont rien à voir avec les coiffures des dignitaires manichéens, lesquelles de toute façon sont attestées beaucoup plus tard. Bon, on avait pensé qu'il s'agissait de manies, Alors, je vous dis tout de suite pour quelle raison, parce que c'est à cause de ce qu'il y a en dessous. Que voyez-vous en dessous ? On retrouve notre couple, Wirkak et sa femme, et trois jeunes garçons. Or, on sait par l'épitaphe qu'ils avaient trois fils. Ils prient, et ils sont accompagnés de lions. Et d'un, ils sont d'un côté. Et de l'autre côté, on a des animaux, sangliers, gazelles, mouflons, cerfs, qui ont tous la particularité d'être chassés. C'est le repentir des carnivores envers leur proie. Voilà. C'est l'abandon, c'est l'abandon de la chasse, à la fois par les humains et par les, carnassiers. Alors, bon, il se trouve, justement, ça nous avait inspiré cette interprétation manichéenne, parce que le manichéisme prêche l'abstention de la viande. Oui, mais seulement pour les élus, pour la petite élite. Le tout venant des croyants manichéens peut consommer de la viande. Or, deux personnages dans les conceptions zoroastriennes sur la fin des temps, qui, sous l'égide desquels les hommes vont abandonner la nourriture carnée. Ce sont les sauveurs du futur, ce qu'on appelle en Pélévi donc les Sochans. Alors, je vous lis tout de suite les extraits de textes qui ont servi à Goulachi et Bédoun à faire cette proposition à laquelle je me suis rallié. Alors, il y a un passage là, donc, dans le livre du Denkart qui concerne le deuxième sauveur, parce qu'il y aura trois sauveurs successifs en 3000 ans. Le deuxième sauveur, voilà, il s'appelle Ushedharma. Lorsqu'il ne restera plus que 53 années au millénaire d'Ushedharma, la douceur et la saveur du lait et des plantes augmenteront à ce point que les hommes, n'ayant plus besoin de viande, en abandonneront l'usage. Et puis ensuite, on passe au troisième sauveur. Durant les 57 années donc du dernier sauveur, les plantes serviront de nourriture pendant 17 ans, l'eau pendant 30, l'esprit pendant 10. Donc, on devient d'abord végétarien, et puis après, on ne s'alimente plus. Bon. Et puis, alors, il y a un autre texte, Zatspram, qui m'a fourni pas mal de parallèles pour l'interprétation de ces reliefs. C'est encore plus précis, parce que là, on voit vraiment une injonction à abandonner la viande. Alors, on nous dit qu'à la fin, viendront sur Terre Ardwaisht, qui est un des archanges zoroastriens, et Hermann, qui est une divinité, disons, messager des dieux. Alors, vous me direz, ce n'est pas le sauveur final, mais on trouve ça fréquemment dans les textes apocalyptiques zoroastriens, notamment dans Zatspram, il y a des permutations de personnages. C'est-à-dire qu'ils jouent le même rôle, mais le processus du sauvetage du monde peut parfois être attribué à un autre personnage que dans les autres textes. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, donc Ardwaisht et Hermann? Donc, on peut très bien dire ils jouent le rôle que... ils agissent, en fait, pour le compte du sauveur. Et que font-ils? Ils montreront aux créatures quel grave péché c'est de tuer les différentes espèces d'animaux, et ils leur ordonneront « Vous qui êtes des hommes, ne tuez pas ainsi les animaux comme vous les avez tués auparavant. » Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est évidemment ça, c'est la prédication... alors, c'est peut-être un sauveur synthétique, c'est peut-être le troisième, qui prêche à l'univers entier, symbolisé donc par la diversité des peuples, indiens, sogdiens, chinois, et le couple des défunts, l'abandon de la chasse. Et cette prédication s'adresse non seulement aux hommes, mais aussi aux bêtes. Alors, maintenant, il y a un autre panneau. Ah, qui nous a posé quelques problèmes, mais je crois qu'il y a une solution. C'est pareil, alors vous voyez, il y a un ascète dans une grotte, hein, ça c'est vraiment directement inspiré de l'art bouddhique, qui prêche à un animal, alors c'est pas clair si c'est un singe ou un petit félin. Et puis en bas, vous avez un océan peuplé de créatures monstrueuses. Et on retrouve Wirkak et sa femme qui supplient avec les bras levés. Et trois anges descendent du ciel. On voit bien que c'est des anges, ils ont des ailes. Et ils descendent du ciel pour les réconforter en apportant un plateau de nourriture, des fleurs, etc., et en les tirant de leur détresse. Bon, c'est pareil, on avait d'abord pensé que peut-être c'était Mani, mais un épisode obscur où Mani fait une retraite dans une grotte, mais c'est attesté beaucoup plus tardivement. En réalité, l'explication s'impose d'elle-même quand on tient en compte la place de ce panneau. Il intervient tout à la fin de la rope du cycle de la vie terrestre des défunts et avant la scène où on les voit monter au paradis. Donc, on est ici dans les fameux trois jours qui séparent la mort du jugement, période ô combien cruciale. C'est pendant ce moment-là que l'âme est sous la protection de Srosh, que le prêtre célèbre la cérémonie du Chaharom, etc. C'est le moment où tout se joue. Et il se trouve qu'on a un texte qui nous dit ce qui se passe pendant ces trois nuits où l'âme est encore sur terre. Je le cite. Donc c'est des textes pélévis zoroastriens. Ici, en l'occurrence, il s'agit du Dadestan Idénig. Durant ces trois nuits, l'âme est sur terre et elle est dans le doute quant au lieu qui lui est destiné. Et elle ressent une grande crainte de l'enfer, et sa pensée lui présente une lourde tristesse et une lourde crainte. Mais en raison des bonnes actions qu'elle a accomplies dans ce monde, la première nuit, l'esprit des bonnes pensées, la deuxième nuit, l'esprit des bonnes paroles, la troisième nuit, l'esprit des bonnes actions, viennent à l'âme et lui apportent aide et réconfort. C'est ça qui est représenté. Et ce qu'on voit ici, c'est que cette étendue d'eau n'est pas une étendue d'eau ordinaire. Elle est peuplée de créatures monstrueuses. Et nous allons voir dans le panneau suivant que c'est la manière de symboliser l'enfer. C'est-à-dire que ces personnes... C'est une manière très inspirée par l'Inde, hein. Donc l'océan des samsaras, des transmigrations, peuplé avec des crocodiles. Mais c'est transposé, cette symbolique indienne est transposée dans une sémantique zoroastrienne. C'est l'angoisse, ce sont les âmes qui... L'angoisse de l'âme devant ce qui l'attend est visualisée par la... est symbolisée par la représentation des défunts englués dans les eaux de l'enfer et qui supplient l'intervention de bonnes pensées, bonnes paroles et bonnes actions. Alors, qui est l'ascète en haut? Vous avez vu tout de suite que j'ai fait une proposition. Je ne vous le cache pas, cette proposition est considérée comme ridicule par tous mes interlocuteurs, qui m'ont même, dans l'une, m'a même demandé de ne pas la diffuser pour ne pas nuire à mon crédit. Bien, mais je la diffuse quand même. Ce personnage typologiquement ressemble assez au Maitreya Sochans de la première scène, sans être tout à fait le même. Donc il faut a priori chercher du côté d'un des sauveurs de l'humanité. Et il y a un seul sauveur de l'humanité qui a passé 10 ans de sa vie au désert, ayant fui sa famille et s'étant nourri avec du fromage. C'est Zoroastre, dans des traditions qui ont ensuite été un petit peu censurées dans la littérature zoroastrienne, mais dont on retrouve des traces nettes. C'est, typologiquement, c'est exactement c'est la retraite de Jésus au désert. À mon avis, c'est lui. Et pourquoi est-ce qu'on met Zoroastre dans cette scène? Eh bien, dans l'hymne qui est adressé, dans la louange qui est adressée à l'âme de Zoroastre dans l'Avesta, que lit-on à la première ligne? Zoroastre est le premier homme qui a bien pensé, bien pensé, bien parlé, bien agi. Donc, Voilà, bonne pensée, bonne parole, bonnes actions. Bon, encore une fois, c'est... j'ai conscience que je prends un risque, mais bon, voilà, j'ai rien d'autre à proposer que cette interprétation. Alors, j'annonce ce que je vais commenter plus en détail la semaine prochaine. C'est le grand tableau final, voilà, côté est, c'est pas par hasard, c'est le côté du paradis, qui montre effectivement, alors je donne les grandes, c'est évidemment, ça grouille de partout, c'est très difficile de s'orienter là-dedans, mais enfin, je vous explique. Ce qu'on voit principalement, c'est un pont. Au-dessus de flots tourmentés, où on reconnaît, voyez ici, une créature monstrueuse, là aussi, bon, c'est pas des eaux très sympathiques, c'est l'enfer. Chez les Zoroastriens, au quatrième jour, l'âme, pour être jugée, va franchir un pont qui va passer au-dessus de la bouche de l'enfer. Si l'âme a été bonne, le pont s'élargit et l'âme passe sans problème, guidée par des flammes qui éclairent les ténèbres. Les voilà, les flammes. Bon. Et vous voyez ici, voilà Wirkak et sa femme. Alors, je vous dis tout de suite, ils sont passés juste au-dessus de la bouche du crocodile. Ça veut dire qu'ils viennent juste d'être sauvés. Parce que si l'âme a été mauvaise, le pont se diminue, s'étrécit à la mesure d'une lame de couteau, l'âme est coupée en deux et est précipitée en enfer. Alors, il y a d'autres détails qui agrémentent le récit. Enfin, ici, évidemment, c'est la façon dont un marchand sogdien sur un lit de mort voyait son arrivée au paradis. Il ne pouvait pas s'imaginer aller au paradis sans sa caravane et ses richesses. Ça, on voit très bien. C'est la psychologie du sogdien sur son lit de mort. La scène est inaugurée à droite par des personnages fort intéressants. Qui sont-ils ? Eh bien, ce sont des prêtres zoroastriens, évidemment. On les a déjà vus dans les reliefs Miho la dernière fois. On en a vu un vers l'entrée du pont, mais on ne voyait que le début du pont. Voilà, on voyait que ça. Et là, on a le pont en entier. Et alors, au-dessus de ces deux personnages, les prêtres zoroastriens vont toujours par deux, comme j'avais expliqué, presque toujours. Au-dessus, et là, voilà la caravane qui commence à partir, et le feu qui va illuminer le chemin du mort. Alors, je vous cite le texte, Satspram, qui est une forme assez littéraire de la narration eschatologique zoroastrienne, mais à mon avis, qui devait être assez... on voit très bien qu'un texte assez proche devait circuler dans les milieux de prêtres qui ont inspiré ces reliefs. Puis une forme de feu conduit l'âme en avant sur le pont du Chinwat et frappe les ténèbres de l'enfer, après quoi se présente la semblance d'une montagne sur laquelle monte l'âme. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Et pour corser le tout, vous voyez ici, malheureusement, l'image était mal coupée, vous voyez deux chiens. Alors, vous les voyez là. Vous les voyez, les deux chiens ? Bien. Le pont du Chinwat est gardé par deux chiens. C'est assez proche du mythe de Cerbère chez les Grecs, mais là, ils sont deux. Ça remonte à la Vesta, c'est dans le Vendidad. Je cite. Le Vendidad prévoit les peines qui vont s'abattre sur le meurtrier d'un chien. En fait, dans la Vesta, tuer un chien, c'est comme tuer un homme. Le meurtrier du chien, que lui arrive-t-il ? Les deux chiens gardiens du pont ne l'assisteront pas à sa mort. Il y a deux chiens qui gardent le pont. Voilà. Je vous laisse à cette contemplation. Bon, il va falloir... Après, on va désosser, parce que c'est extrêmement riche de détails. Mais, avoir retrouvé ces reliefs, c'est comme si on avait retrouvé un texte littéraire sassanide décrivant le sort de l'âme après la mort, sauf qu'on n'en a aucun. Enfin, on a une inscription du IIIe siècle, mais les textes qu'on a, ils sont du 9e, 10e siècle. Et là, on est au 6e. Et on voit que les mêmes textes, des textes extrêmement proches circulaient dans ces milieux. Ça règle la question de la continuité de la tradition eschatologique zoroastrienne. Je vous remercie. À la semaine prochaine.